Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal.
Et bienvenue au Salon du livre de Montréal, édition 2021, avec une présence de la foule. On est très, très content de vous revoir. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous rattrapent sur YouTube en différé. Vous êtes à la table ronde qui est intitulée « Le voyage intérieur vers de nouveaux horizons ». Ça, c'est un long, long titre pour vous dire qu'on va réfléchir sur l'écriture de fiction, toutes ses facettes, tous ses possibles, la source de la fiction. Mon nom est Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un journaliste, un écrivain, et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec trois magnifiques artistes que je vais vous présenter brièvement avant de plonger dans le vif du sujet. D'abord, à ma gauche, Maya Ambasic, qui est à la fois autrice et enseignante en philosophie. En 2016, son livre Mostargia a remporté le Grand Prix du roman métis et le Prix des racines et des mots de la littérature de l'exil. Et cette année, au Salon du livre de Montréal, elle vient présenter son roman Dans les murs, qui est publié chez VLB Éditeur. Un peu plus loin, on a Vic Verdier, qui, de son côté, est diplômé en histoire, en communication. À ce jour, il a publié 8 romans de genre littéraire très, très différents les uns des autres. Et cette année, sur le dessus de sa pile, sur la petite table qui chambranle parce qu'il y a trop de livres, il y a 2 titres, entre autres, Jack et le haricot magique, dans la collection des contes interdits. Et rappelle-moi l'autre titre dont tu veux nous parler?
Mercurochrome.
Mercurochrome. Et avant d'en parler davantage, je vais vous présenter Clara Dupuis-Morancy, qui est diplômée depuis 2016 au doctorat en littérature comparée, qui enseigne la littérature en tant que chargée de cours et qui a publié cette année son 2e roman chez Heliotrope, Sadi X. Bonjour.
Bonjour, Samuel.
Alors, avant de vous lancer des questions à 1 000 000 $, je veux que les gens devant nous et à la maison aient un meilleur aperçu de votre œuvre publiée cette année. Donc, Clara, si je te donne le micro pour nous présenter Sadi X, quelle est l'histoire, quelle est la tonalité littéraire, où on va en plongeant dans ce roman? Je te laisse la parole.
J'essaie de penser à cette question du voyage. Sadi X, c'est l'histoire d'un voyage, d'une migration. Sadi, c'est un personnage qui a tout quitté à 25 ans, qui a quitté Montréal, qui a quitté sa famille, qui a tout laissé derrière pour se réinventer et qui est partie vivre à Marseille. Et puis, elle a aussi quitté, elle est étudiante en philosophie, puis elle a fait une conversion à la science. Elle est devenue scientifique, puis elle est allée étudier les virus géants à Marseille. Donc, c'est pas le Pandora virus, c'est pas le coronavirus, mais c'est le Pandora virus. Et c'est une découverte qui lui a fait reconsidérer tout ce qu'elle savait sur la vie, tout ce qu'elle pensait sur la vie. Alors, on la suit dans cette nouvelle vie-là, mais il y a un événement qui, à la moitié du livre, va la ramener à Montréal pour la première fois depuis 25 ans. Donc, 25 ans plus tard, après son départ, elle va revenir à Montréal et redécouvrir ce milieu qu'elle a quitté et qu'elle n'a pas revu depuis ce temps-là.
Et on est dans quelle tonalité émotive dans ce roman?
On est dans une tonalité émotive, c'est un concept intéressant. On est à la fois dans, c'est-à-dire que c'est une scientifique. Donc, dans la première partie du livre, on voit le monde à travers ses yeux à elle. Donc, on est dans un esprit qui analyse tout, qui observe tout, qui est parfois un peu détaché des affects, si on veut, des émotions, parce qu'elle a un regard qu'on pourrait penser froid sur les choses. Ouais. Mais peu à peu, on va comprendre pourquoi elle est un peu détachée d'elle-même, pourquoi elle est plongée, parce qu'elle se plonge dans ces virus-là. Elle fait partie de ce monde-là quand elle se plonge là-dedans.
Est-ce qu'elle va être forcée à reconnecter un peu avec ses émotions à un certain...
Mais peut-être. C'est ça le voyage intérieur, n'est-ce pas?
Et Maya, si je te donne l'occasion de nous parler du roman Dans les murs, comment tu nous le présenterais?
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui veut cacher son identité. Alors, c'est une ancienne réfugiée, en fait, qui a connu la guerre civile. Et elle vit à Montréal sous un pseudonyme, parce qu'elle n'a pas envie de retrouver ou revivre son passé. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt tragique, étant donné qu'elle a été violée durant la guerre civile en ex-Yougoslavie, elle a perdu sa sœur jumelle, et elle est devenue prof de littérature à Montréal. Et à un moment donné, lors d'un voyage anodin, elle se rend en Italie, à Trieste, en essayant de faire des recherches sur les inédits, en fait, des écrivains de Trieste. Et là, elle fait connaissance d'un personnage masculin qui la chamboule, premièrement sexuellement, érotiquement. Et par la suite, en fait, il va la forcer un peu à retrouver ce passé tragique. Et grâce à lui, elle va voyager un peu à travers plusieurs villes dans Istanbul, dans Beyrouth, et elle va terminer à Sarajevo. Et elle va retrouver à la fin, mais je ne vais pas vendre le punch du livre, mais voilà, elle va, c'est une quête en fait mystico-spirituelle souffrante, mais qui, je pense, se termine bien.
Et vous allez voir, donc on va réfléchir tous ensemble à la fiction, mais avec des auteurs et des autrices avec des œuvres très différentes. Vic Verdier, parle-nous. On s'en va vraiment ailleurs.
On s'en va ailleurs. Écoutez, moi, j'ai écrit plein de choses pour plein de monde. J'ai écrit du thriller, j'ai écrit de la chiclette de gars. J'ai écrit toutes sortes de choses. Et là, présentement, j'écris beaucoup de romans d'horreur et des romans même qui nous permettent d'aller dans des zones d'écriture qu'on a rarement fait. Ici, j'ai un roman dont vous êtes la victime.
Au lieu d'un roman dont vous êtes le héros.
C'est un roman qui propose effectivement d'avoir des choix. Et je le fais dans un univers, tenez-vous bien, c'est un roman de zombies. On est ici en plein milieu de la couronne nord de Montréal, alors que la pandémie de coronavirus est devenue tout d'un coup la peste bleue qui s'est mise à tuer terriblement. On a vacciné et tout d'un coup, il y a des gens qui se sont mis à hurler, qui se sont mis à se dévorer et on est 6 mois plus tard. Vic Verdier est un survivant 6 mois plus tard. Et il doit faire des choix déchirants entre ses deux filles, entre ceux qui pourraient aimer, sa femme qui a perdu. On est vraiment dans un roman qui nous permet d'avoir 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y a 6 fins différentes dans deux grands axes narratifs différents.
Et si tu avais aussi à nous parler un petit peu de Jack et l'haricot magique.
Jack et l'haricot magique, ça se trouve à être un conte interdit. C'est dans la série des contes où on décide de reprendre les contes classiques et de les réinventer à la façon moderne. Ici, on est dans un roman de cambriolage. Ça se trouve à être ce qu'on dirait en anglais un heist novel, où on suit le cambrioleur, parce que vous vous rappellerez que Jack et le haricot magique, c'est celui qui monte en haut du haricot pour aller voler le fameux géant. Mm-hmm. C'est là-dedans qu'il y a la poule aux œufs d'or.
Ouais.
Version très adulte, beaucoup plus rude, une version donc de roman d'action.
Et là, dans la notion qui était évoquée pour le titre de cette table ronde, il était question, oui, de voyage intérieur, mais beaucoup d'écriture de fiction. Je vais un peu aborder les deux. Je vais parler d'abord de l'écriture de fiction en me permettant une petite tranche de vie quand j'étais en 5e secondaire. À 16 ans, mon prof de français me demande comme premier travail de français d'inventer le journal intime d'un personnage fictif. On nous demande à tous et toutes 250 mots, j'en ai fait 1300. Parce que j'avais trop de choses à dire, j'étais pas capable de m'arrêter. J'ai senti que de pouvoir inventer des émotions, des personnages, un univers, pour moi, c'est extrêmement grisant. Donc, j'ai envie de savoir, est-ce que vous vous rappelez dans votre vie du déclic que vous avez senti à quel point l'écriture de fiction vous galvanisait à l'intérieur? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là?
Oui.
Vic?
Je m'en rappelle parce que j'ai longtemps pas voulu écrire. Je me suis longtemps dit que je ferais pas ça. Mon père disait d'ailleurs, je lui porte un foulard ici parce que il disait, toi, t'es un foulard. Il voulait dire, t'as quelque chose d'artistique. Tu sais pas compter. Bon. Fait que je mets mon foulard d'artiste et d'auteur pour venir vous voir. Je suis pas cartésien. Et à un moment donné, je me suis dit, regarde, je travaille, je gagne bien ma vie. Et Radio-Canada décide de faire un concours de récits québécois avec Jean Barbe. Ça fait probablement quelque chose comme 15 ans. Et je soumets une affaire qui s'appelait « Con comme un chasseur ». Et ça se trouvait à être une espèce de variation sur une histoire que j'avais racontée plein de fois et puis que j'ai mis cette fois-ci en mots en me disant « Est-ce que je suis capable de faire ça? » Mais ça... C'est le proto-Vic Verdier dans ce que j'ai appelé la chiclette de gars.
Ouais.
C'est ça qui m'a amené à publier chez XYZ le premier roman. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que de se raconter juste à côté de soi, c'était formidable. Puis depuis ce temps-là, Vic Verdier, c'est mon nom d'auteur. C'est aussi le nom de mes personnages. À l'intérieur des romans, il y a des Vic Verdier.
Mais j'entends que ton père... peut-être voyait péjorativement le monde des artistes.
Je pense qu'il aurait voulu, lui, avoir ce genre de talent-là. Son père, à lui, avait ça. D'ailleurs, mon grand-père a publié de la musique sous le nom de
Vic Verdier. Mais dirais-tu que tu as longtemps eu ton envie d'écrire et quand tu as vu le concours, tu t'es assis et t'as essayé pour la première fois?
Quand j'ai été... Un, je l'ai fait. Puis deuxièmement, quand on a choisi le texte pour faire partie de l'anthologie, tout d'un coup, je me suis dit, ah, ben, peut-être que je peux écrire pour vrai. Peut-être que je peux pas juste gagner ma vie à écrire comme communicateur. C'est ce que je faisais à l'époque. Et que je peux aussi faire de la fiction. Et ça m'a complètement réaligné. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai publié là, une dizaine d'œuvres.
Clara, est-ce qu'on remonte à l'enfance, à l'adolescence ou aux premières années de la vie d'adulte où tu as eu le point de bascule vers l'écriture de fiction?
Je ne sais pas si je l'ai encore eu dans le sens où c'est drôle, Vic, ce que tu racontes sur le « moi » juste à côté de nous. C'est-à-dire que pour moi, j'ai encore du mal à différencier la fiction de juste l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit à partir du moment où j'ai pu écrire. Là, j'ai toujours eu un journal intime. Puis quand je relis, j'ai gardé tous mes journaux intimes. Je suis fétichiste comme ça. Puis quand je relis ces journaux-là, des fois, j'ai commencé à faire ça ces dernières années pour essayer de comprendre l'enfant que j'avais été. Puis je me rends compte que j'étais déjà dans une fiction. C'est-à-dire que même quand on n'est pas dans une fiction à proprement parler, on est déjà dans une fiction. Ouais.
Donc tu n'inventais pas une histoire, mais je m'inventais quand même des histoires.
Oui, puis je racontais, puis je m'inventais une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je relis ça, je me rends compte à quel point je m'inventais des histoires. Mais quand j'étais... Donc pour moi, il y a quelque chose de terrifiant dans la fiction aussi parce que c'est de se donner une liberté de faire ce... Il y a une liberté qui me terrifie là-dedans. D'écrire CDX, c'était très terrifiant parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'écrire le réel, mais après ça, de laisser le réel délirer, bien sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression que de déjà être dans un rapport vraiment fictionnel au réel. C'est-à-dire que je ne pense pas que je crois au réel. Alors, vraiment. J'ai l'impression qu'après ça, c'est beaucoup plus difficile de différencier.
Mais si dans les journaux intimes, tu racontais une part de réel, mais peut-être que tu mettais en scène ou que tu écrivais autrement. Mm-hmm. Est-ce que quelques années plus tard, tu t'as essayé volontairement d'inventer une histoire qui ne parlait pas du tout de toi? Est-ce que tu me dis que tu es terrifiée?
Mm-hmm. Bien, j'ai inventé une histoire, mais qui parlait de moi. C'est-à-dire que j'ai inventé une autre version de la réalité. Je pense que c'est ça aussi, la fiction, c'est d'inventer, je veux dire... Ouais. Vic, vous avez inventé une façon d'être ce personnage de extra-familial aussi. Là.
Mais en même temps, à partir du moment où j'ai exorcisé ça dans les premiers romans, ben maintenant, il reste des choses dans les romans que j'écris, mais manifestement, il n'y a pas grand-chose de moi à l'intérieur de ça. Ces histoires-là sont de la fiction. Il y a des ressorts narratifs là-dedans qui n'ont rien à voir avec le réel. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai migré d'un à l'autre.
Oui, mais j'ai de la misère à croire qu'il n'y a jamais de soi. C'est-à-dire, je pense que c'est toujours
tout le temps.
Soi. Mais pour répondre à ta question comme une bonne élève, par exemple, j'étais en secondaire 4 ou 5 aussi, et on devait faire un projet personnel tout le long de l'année. Donc, j'avais voulu écrire un roman. Donc, j'avais mis en scène mon groupe d'amis, mon noyau d'amis proches. Et cette amie qui était une des plus proches avec qui j'étais presque une sœur, j'ai imaginé sa mort. Alors, je mettais en scène cette amie-là qui meurt et nous qui vivons cette... Et moi qui sombrais dans une souffrance que j'étais pas capable de vivre dans la vie, mais il y avait quelque chose qui essayait de se dire dans cette fiction-là, quand même.
Puis à quoi t'as goûté quand t'as fait cet exercice-là? Est-ce que c'était encore terrifiant ou il y avait quelque chose qui palpitait à l'intérieur?
Oui, oui, bien sûr. Mais mais pour moi, c'est dans l'écriture, ça.
Au-delà que ce soit fictif ou pas.
Oui, pour moi, c'est dans l'écriture, c'est dans la mise en langage, il y a quelque chose qui s'exprime. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est pas tant fiction, invention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qu'on investit de soi dans le texte, dans l'écriture, c'est là où la palpitation arrive. C'est là où il y a quelque chose qui s'invente malgré tout, puis qui s'exprime de soi, qui ne peut pas s'exprimer dans le monde réel, si on veut.
On a déjà deux réponses qui me semblent assez différentes. Maya, je suis curieux de savoir comment tu vis ton rapport à l'écriture de fiction.
Moi, je pense que j'irais plutôt dans le sens de Clara, même si je trouve votre approche libératrice. J'aurais aimé pouvoir faire ça, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que pour moi, c'est la même pulsion en fait, du départ. noir qui s'exprime dans l'écriture. Maintenant, quelle forme ça va prendre, que ce soit la poésie ou la fiction, j'ai toujours l'impression de parler de moi et j'y échappe pas. Donc, même lorsque c'est de la pure fiction, c'est quand même la même énergie qui s'exprime. Mm-hmm. Donc, j'admire des auteurs qui rentrent dans des univers complètement à l'opposé,
éclatés.
Ouais. Je voudrais faire ça, mais j'y arrive pas. Donc, j'ai ce rapport qui est quand même assez libérateur dans la mesure où il y a quelque chose qui se met en marche et, mm-hmm. et là, j'attends de voir quelle forme ça va prendre.
Et tu viens tout juste de parler de poésie ou d'écriture de fiction. Est-ce qu'il y a d'autres genres littéraires auxquels tu as touché?
Oui, j'ai touché à la poésie. Là, je suis en train de faire un essai, roman, récit.
Est-ce que je peux te poser une question un peu large de m'expliquer ce que tu ressens en touchant à ces différents genres-là? Est-ce que c'est différent?
Y a plus de sérieux quand même. Dans un récit ou dans une autobiographie, parce qu'on a comme l'impression de devoir être fidèle aux faits. Mais même à ça, comme disait Clara, c'est quand même une reconstruction de l'événement a posteriori. Donc, quand on pose la question dans mon avant-dernier Mostargia, c'est largement autobiographique. Les gens me posent la question, est-ce que tout est vrai? Tout est vrai, mais selon moi.
Oui,
voilà.
Ta vision du réel.
Exactement. Mmh. Donc, si vous demandez les mêmes acteurs qui ont fait partie de ces événements-là, peut-être qu'ils ne raconteraient pas de la même façon.
Et quand tu es dans la poésie, est-ce que ça te fait vibrer autrement ou c'est l'acte d'écrire et donc c'est très similaire?
C'est quand même une autre vibration parce que c'est moins réfléchi, c'est beaucoup plus, en tout cas dans mon cas, impulsif, c'est beaucoup plus sensuel. J'ai moins tendance à vouloir réfléchir à ce que je fais. Je laisse vraiment les muses s'exprimer. Elle me mêle, en fait, plus dans la poésie que dans le...
C'est drôle parce que cette année, j'ai publié pour la première fois des livres qui sont une écriture aux accents poétiques. Et moi, je trouvais ça vertigineux, je trouvais ça plus difficile, plus épeurant d'aller dans la poésie, alors que chez toi, ça semble plus naturel.
Oui, ouais. Pour l'instant. Peut-être ça va devenir plus difficile en vieillissant, je ne sais pas.
Peut-être. Et Vic, quels sont les genres littéraires depuis tes débuts auxquels tu as touché?
Okay, moi, j'ai fait... j'ai écrit, comme je vous disais, une checklist de gars.
Ouais.
Là, on parle vraiment de quelque chose de très léger où on est dans le journal intime presque. Et dans ce cas-là, c'était plutôt... C'était très fondé. Il y avait beaucoup de bases entre de l'autofiction. Là. On est vraiment dans cette zone-là. J'ai touché au thriller historique 1919 à Québec. J'ai fait du polar. Ça ressemble un peu à du 19-2. J'ai vraiment fait vraiment une enquête, mais avec le policier bleu, hein, le policier qui patrouille. J'ai ensuite touché à... J'ai fait du steampunk. J'ai gagné le Grand Prix de la science-fiction avec un roman qui est une rétro-fiction steampunk, où Québec est le centre du monde.
Qu'est-ce que le steampunk pour les non-initiés?
Le steampunk, là, écoutez, c'est compliqué, hein? mais on va penser à Jules Verne,
mm-hmm.
OK? On va penser au fait qu'on est dans le passé avec une technologie qui semble plus développée, puis souvent qui est appuyée par le fait qu'il y a une différence dans cet univers-là entre ce que nous on vit et ce qu'il y a dans cet univers-là. Dans mon cas, c'est simplement que la ville de Québec, vous le savez, est sur le Cap Diamant.
Oui.
Ben, le Cap Diamant, dans cet univers, il est rempli de diamants. Et ça vient tout changer. Ça fait que Québec est une espèce de Gotham City, de métropolis. Et ça nous pose plein de questions politiques, sociales, économiques.
Et là, on parle de plusieurs genres littéraires que tu as nommés. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sortes d'écriture? Est-ce que tu as fait de la scénarisation, de la poésie, de l'essai et autres?
Écoute... On devrait faire une différence entre les romans que j'ai écrits et les romans dont vous êtes la victime.
Oui.
Parce que ce sont pour moi deux façons d'exprimer l'histoire, mais ça reste dans le même univers. Le premier était probablement plus un récit au départ, mais rapidement, c'est devenu du roman.
Est-ce que tu sens que d'un genre à l'autre, ça vient chercher quelque chose de différent en toi? Ouais. Que ce soit dans ton esprit ou dans tes émotions?
Moi, je rejoins beaucoup ce que Clara a dit au départ, c'est-à-dire que tu as dit il y a toujours de soi là-dedans. Mm. Puis clairement, il y a des choses, moi, aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des thèmes qui me hantent. C'est la question, par exemple, de ce que les gens font quand ils sont dans une situation impossible. Ça, pour moi, c'est évident que ça revient. La quête de se libérer du matériel, c'est toujours important pour moi aussi. Alors, il y a des choses qui reviennent, mais les façons de le faire sont très, très différentes, puis les émotions qu'ils viennent chercher sont pas les mêmes. Puis je me rends compte que moi, j'ai besoin d'écrire des choses qui sont basées dans l'action. Alors, souvent, il va y avoir des scènes qui sont dures, mais des scènes qui sont décrites et qui vont provoquer le sentiment par le fait d'avoir été décrit, mm-hmm. pas par le fait d'avoir été ressenti. Me suivez-vous là-dedans? C'est-à-dire que, donc, quelque part, je vais dire les choses crûment et je vais laisser au lecteur le soin de vivre ça, de vivre cette agression-là, non pas par l'effet que le personnage a, mais par le fait qu'il en a été témoin.
Mm-hmm. J'ai envie de faire du pouce là-dessus en te demandant, Clara, est-ce qu'il y a des thématiques qui te hante dans tes différents projets? Est-ce que tu vois qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu écris tout le temps, mais avec une lorgnette différente?
Mm-hmm. Oui, je pense que souvent on tourne autour mm-hmm. du même pot. C'est-à-dire que, justement, on essaie d'emprunter différents chemins pour arriver au même pot que le pot nous parle. Mais je pense que...
Quels sont ces pots?
Quand je regarde... Parce que j'ai écrit ma thèse aussi, quand j'écrivais mon premier livre, Mère d'invention, puis là, je regarde Cédiex, c'est des écritures qui sont très, très, très différentes pour moi, des façons d'écrire qui ont été très différentes aussi, des espaces d'écriture qui étaient différents, mais ce qui revient, je pense que c'est à la fois... Je pense que j'essaie toujours de chercher quelque chose d'un peu informe, c'est-à-dire que j'ai un rapport à l'écriture qui est assez formé. J'essaie de me défaire de la forme, mais j'arrive jamais, c'est-à-dire que parce que plus j'approche cette chose-là, peut-être un peu visqueuse, peut-être un peu indéfinissable, peut-être un peu collante, qui peut être plein de choses. Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est quand les choses glissent et qu'ils sont plus classables? Mais plus on s'approche de ça, comment on fait pour s'approcher de ça sans crisper? Mm-hmm. Puis quand refaire plus de formes, c'est-à-dire que souvent, plus on essaie d'aller vers quelque chose d'incontrôlable, plus on veut le contrôler. Donc, je pense que c'est une des choses qui me hante, c'est-à-dire que ça prend différentes formes. Là, ça a pris la forme du virus parce que ça cadre pas dans nos catégories. Mmh. Dans ma thèse, j'essayais de parler du mollusque chez Proust. T'sais, c'était dans l'hyper formé, dans ce qui est très, très, très structuré, dans ce qui est très élaboré, de chercher là où ça... Oh, peut-être que ça se met à glisser un peu.
Ça vient d'où, cette propension à aller dans l'écriture formée?
On a combien de temps? J'essaie.
Est-ce que c'est naïf de croire que d'avoir étudié jusqu'au doctorat en littérature comparée, ça vient façonner un peu la plume ou le regard sur son œuvre et celle des autres?
Oui, mais je pense que c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire un doctorat pour aller essayer de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'on va essayer... Il y a beaucoup d'énergie qui est mise à essayer de comprendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est investi dans l'intelligence.
Ouais.
Puis je pense que c'est ça qui... Peut-être qui va être un... Quelque chose de récurrent dans mon écriture, c'est d'essayer de comment est-ce qu'on peut laisser un peu se surprendre soi-même, c'est-à-dire se piéger pour défaire un peu l'intelligence. Donc, c'est un peu de comment est-ce qu'on peut être en train d'écrire sans trop penser? Comment est-ce que ça peut venir justement chercher... Maya parlait de poésie. Comment est-ce que ça peut venir chercher
la
d'autres
pulsion,
régions de soi?
Ouais.
Oui, quelque chose qui est peut-être un petit peu plus... Donc, c'est d'où vient ce besoin de forme? C'est-à-dire que c'est un besoin primaire, c'est une défense primaire de protection puis de contrôle contre l'inconnu.
Mm-hmm. Mais c'est aussi une... Il y a aussi une question de métier là-dedans. C'est-à-dire que vous voyez que moi, j'écris souvent dans des choses qui sont préformatées. Un polar, ça fonctionne avec des ressorts.
Il y a des codes très clairs.
Il y a des codes là-dedans. L'horreur aussi, il y a des codes là-dedans. Et donc, normalement, je sais très bien où je m'en vais, ce que je veux raconter. Mais la plupart du temps, je tombe dans des moments qui ressemblent à ce que tu dis là, c'est-à-dire... Je me surprends à écrire ce que je pensais pas écrire dans la forme, alors que je suis dans dans quelque chose de très codé. Je sais que je vais écrire une scène là où quelqu'un va devoir découvrir quelque chose. Mais la façon les mots qui sortent à ce moment-là, les images qui sortent à ce moment-là, sont souvent très surprenantes. Puis quand moi, le premier, je me lis en disant, ah, Là, ça veut dire que j'ai touché à quelque chose qui m'a surpris moi-même, puis que j'espère produire chez le lecteur.
Maya, est-ce que tu goûtes parfois à cette impression d'inattendu que moi, je peux résumer naïvement avec la magie qui vient de se produire?
Mais bien sûr, et c'est le moment le plus extraordinaire de l'écriture. C'est là où on a l'impression d'être totalement possédé, où j'ai l'impression d'écrire et que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à travers moi. J'ai l'impression d'être un courroie de transmission.
Comme si l'histoire existait quelque part. Puis que...
Comme si on a été choisi, en quelque sorte, pour raconter cette histoire de cette façon-là. Et ce que je trouve très surprenant, c'est quand j'apprends des choses au fur et à mesure que j'écris.
Ouais.
Et là, je me dis, mais Jung avait raison, il y a vraiment un inconscient collectif. On possède un savoir sans le savoir, mm-hmm. qui est là. On peut l'expliquer de mille façons, mais c'est surprenant et parfois c'est épeurant aussi. Parce que je me dis, mais comment ça se fait que je suis allée là et comment qu'est-ce qui se trouve dans mon inconscient qui me donne en fait des pistes pour que je puisse décrire des lieux où je n'ai jamais été ou des endroits...
C'est d'accepter la fameuse perte de contrôle
dont
on parlait.
Tout à fait, et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Puis, je veux aussi savoir si de ton côté, tu as identifié des thématiques auxquelles tu tournes.
Alors oui, moi, c'est l'exil, l'enracinement, le déracinement, la mémoire, les traumatismes intergénérationnels, la quête de soi, voilà, c'est... C'est
d'une œuvre à l'autre.
Voilà.
Et je me demandais, quand vous écrivez, j'essaie de décortiquer pour les gens qui nous écoutent l'écriture de fiction, est-ce que quand on invente un personnage et qu'on lui fait vivre une situation qu'on n'a jamais vécue, on se demande qu'est-ce qu'on vivrait comme émotion, qu'est-ce qu'on aurait comme réaction et on les donne à nos personnages, ou c'est un travail qui ressemble plus à celui d'un acteur où on devient son personnage et on laisse monter les émotions? Ou peut-être même une troisième réponse, un troisième choix que je n'ai pas donné. C'est quoi votre démarche?
J'ai l'impression qu'un personnage, ça devient comme un laboratoire. C'est-à-dire que ça devient vivant aussi, mais pas vivant comme une personne qui vivrait dans le monde. C'est-à-dire qu'après ça, c'est ce qui m'est personnel. Puis c'est ce que j'observe aussi chez les écrivaines, les écrivains qui m'intéressent. C'est-à-dire que les personnages deviennent plus que des êtres humains, plus que des personnes. Surtout de romans. Bon, il y a le personnage de théâtre, c'est autre chose. Mais personnage de romans, de fiction, ça devient comme une espèce de condensé de tellement de détails que ça devient une espèce de laboratoire où, en mettant certaines choses ensemble, en lui faisant traverser différents milieux, situations, ça prend vie. Puis on observe aussi, c'est-à-dire que c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Parce que le personnage concentre plusieurs existences qu'on a croisées, plusieurs, même si c'est pas nous, il y a certainement de nous aussi, mais je pense qu'on essaie de comprendre aussi quelque chose de soi, quelque chose des autres qu'on n'arrive pas à comprendre tout à fait.
En explorant le personnage.
Oui.
Ouais.
Puis il y a quelque chose de l'ordre d'une performance aussi, je pense. La performance d'un acteur, c'est-à-dire qu'on essaie de le... Mais c'est une performance de langage. Donc, au lieu d'être une performance de danse ou de théâtre, justement, qui serait aussi dans une certaine chorégraphie, c'est une performance de comment ce personnage-là va se débattre dans le langage. Qu'est-ce
dans le langage comme... ou dans une situation, dans une émotion. Moi, quand j'écris, je deviens, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un de plus jeune, de plus vieux, quelqu'un de très, très différent de moi, je deviens ce personnage-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou pas du tout?
Moi, c'est clair que oui. Dans les réponses que tu donnais au départ, le fait de s'imaginer dans ce personnage-là, de se projeter dans le personnage, moi, c'est évident que c'est ça que je fais. Clair, clair, clair. Tu sais, dans ce que tu disais aussi, il y a des affaires qui m'interpellent parce que, tu vois, moi, à l'inverse, je travaille beaucoup avec le dialogue. Alors, je suis très rarement dans la tête des personnages. J'essaie de m'assurer qu'on comprenne ce qu'ils pensent avec ce qu'ils disent. Ce qui fait aussi que mes dialogues sont sont pas empoulés du tout.
Comme tu disais tantôt, que tu veux décrire la situation et la réaction, mais pas dans l'intériorité.
Ça veut dire que je vais avoir, par exemple, des dialogues décousus, parce qu'on va se rendre compte que la personne, comme on le fait d'ailleurs dans notre vie courante, on est en train de, non pas répondre à la question qu'on vient de poser, mais d'affirmer quelque chose qu'on avait dans la tête depuis un certain temps. Puis ça fait qu'on n'est pas vraiment A, B, A, B. Il se promène. Et là, on se rend donc compte que le personnage n'était pas dans la discussion. Il était pris dans une autre histoire qui se racontait. Alors ça, pour moi, j'essaie beaucoup de le faire par justement l'interaction, par le dialogue. Et puis ça se fait beaucoup en imaginant comment je le dirais ou comment ça se dirait par ce personnage-là.
Maya, est-ce que tu imagines ce que tu vivrais pour le donner au personnage ou tu deviens un personnage et tu te détaches de toi?
Mais ça dépend. Ça dépend de ce que je suis en train d'écrire. Hein. C'est vraiment, ça dépend de l'histoire. On dirait que c'est elle qui décide vraiment la façon dont le personnage va raconter l'histoire. Donc, je ne peux pas vraiment répondre. Les deux, je me reconnais.
Tu vis un peu dans les deux.
Exactement.
Et là, je vous parlais de cette idée d'être un peu comme un acteur, de devenir son personnage. Et je veux faire un lien avec le théâtre. Quand on suit des cours, quand on fait des pièces, on peut découvrir quelles sont nos zones d'aisance. On peut réaliser qu'on a une grande facilité à aller vers la comédie ou qu'on a des blocages avec le drame ou avec certaines émotions. Est-ce qu'en écrivant la fiction, vous avez appris des choses sur vous-même? En naviguant dans différents genres, avec différents personnages, différentes situations, est-ce que ça vous a fait comprendre qu'il y a des émotions avec lesquelles vous êtes à l'aise ou pas du tout, des situations ou des contextes? Est-ce que vous avez appris sur vous?
Mm-hmm. Je pense que ça dépend beaucoup de notre rapport à l'écriture. Moi, j'ai un rapport où j'essaie toujours d'aller au plus difficile. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, c'est pour me donner une expérience que je ne peux pas avoir dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, forcément, on va essayer d'aller là où c'est le plus confortable. Tu sais, dans cette chaise, par exemple, on va essayer de ne pas aller là où ça fait mal. Mais dans l'écriture, pour moi, c'est le seul endroit où, tout d'un coup, je crée un espace pour essayer d'aller là où ça va être le plus inconfortable. Et j'essaie de me méfier, justement, de ce qui me serait facile ou de ce qui me serait naturel ou de ce qui me serait plus aisé parce que je me dis, oh, il y a quelque chose là qui est trop complaisant. Donc, si c'est trop facile, si ça coule trop de source, il y a quelque chose qui peut... Il y a des moments quand même qui coulent dans l'écriture. Mais si ça m'amène dans des espaces qui m'apprennent rien sur moi ou... Puis surtout, là où ça va m'intéresser le plus, ma boussole, là, si on veut, dans l'écriture, ça va être... Qu'est-ce qui peut m'apprendre ce que je ne veux pas savoir sur moi-même? C'est-à-dire que si ce que je ne veux pas savoir sur moi-même, c'est exactement là où je vais aller parce que c'est là où ça, c'est la seule façon dont j'ai l'impression de pouvoir être intéressante pour les autres. C'est-à-dire que si je vais juste là où j'ai déjà aménagé tout, ben les lecteurs, il se passera pas. J'ai quand même un peu envie de mettre les lecteurs inconfortables. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu... C'est un peu ce que je recherche, mais peut-être.
Si dans l'écriture, tu explores l'inconfort, dans des trucs, des zones que tu ne connais pas ou ce qui est plus difficile, est-ce que ça reflète ce que tu es dans ta vie? Est-ce que tu préfères aller vers ce qui est plus complexe?
Oui, puis je pense que même c'est un problème, c'est-à-dire que j'aspire à écrire des livres plus faciles à l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut... C'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question d'âge. J'ai 35 ans, donc je pense qu'il y a une période dans la vie où on essaie de construire quelque chose. On essaie de construire les limites d'un moi. Puis, à un moment donné aussi, arriver à 35 ans, quand on arrive entre 35 ans et 40 ans, je pense qu'il y a aussi une période pour Maya, vous parliez de Jung tantôt, c'est-à-dire c'est un autre rapport à l'ego, c'est-à-dire qui on est dans le monde, qu'est-ce qu'on veut croire de soi-même. Mais c'est peut-être... de commencer à ramollir un peu puis de défaire un peu ces limites-là. Mais pour ramollir, il faut aussi ne pas être que dans la difficulté. Mm-hmm. Parce que des fois, c'est aussi un piège. D'être dans la difficulté, ça
constance,
devient une facilité
drôle, hein?
aussi.
Oui, ça devient ta routine.
Oui, exactement.
Étrangement.
Et sa réponse est pratiquement la même que « je me durcis, je me laisse aller dans l'écriture ». Ce va-et-vient-là est très présent chez toi.
Oui, tout à fait.
Maya, est-ce que il y a des trucs que tu as appris sur toi à travers la fiction, l'écriture de fiction?
J'ai appris à prendre soin de mes lecteurs à travers... je m'explique là. C'est-à-dire que je me pose toujours la question ce que moi, en tant que lectrice, j'aime.
Ouais.
Et donc, quand j'écris, je me dis toujours, mais il faudrait que j'écrive des choses que moi, je voudrais lire. Il faut que ça me réussisse, en fait. Parce mm-hmm. qu'il y a des choses que je déteste faire. Et puis, c'est une littérature, par exemple, le descriptif. À une œuvre fictionnelle qui va vraiment beaucoup dans les détails, qui décrit énormément. Ouais. On peut lire 10 pages sur la description d'une porte ou d'une maison. c'est noble en soi, mais ce n'est pas pour moi. Et j'ai souvent tendance à être impatiente. Et ce n'est pas d'emblée des œuvres que je cherche chez les autres. Et ce n'est pas ce que j'écris non plus. Mm-hmm. Donc, je sais qu'il ne faut pas que j'aille... là, parce que je vais m'emmerder, moi, et si moi, je n'ai pas du plaisir, je sais que mes lecteurs vont ressentir que c'est du construit.
Donc, l'écriture de fiction peut dénoter chez toi une volonté d'efficacité. de progression, de flow littéraire, une certaine impatience que tu as nommée, je me permets de la renommer. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dans les zones émotives que tu as, ou les genres littéraires, ou même la poésie? Est-ce qu'il y a autre chose que ça t'a appris sur toi?
Il y a des émotions qu'il ne faut pas que je touche parce qu'on n'a pas mûri, on n'a pas encore, je ne sais pas, peut-être à 50 ans, je vais être en mesure de parler de certaines choses.
Puis, je ne veux pas te pousser à les nommer, mais est-ce que tu sais à l'intérieur de toi quelles sont les émotions que tu n'es pas prête à toucher à ce moment-ci de ta vie?
Oui, puis c'est souvent ça a quelque chose à voir avec notre fort intérieur par rapport à notre passé, par rapport aux enjeux qu'on n'a pas résolus psychologiquement. Ouais. Je suis plus ou moins en mesure de les détecter. Je pense qu'il y a certaines choses dont je ne suis pas prête à en parler, même dans ma vie personnelle. Ouais. Et donc là, je me dis, bon, ben, on va laisser l'âge mûrir tout ça, puis on verra ce que ça va donner.
Vic, est-ce que toi, tu as vu des blocages? Non? Tu as l'air déçu de me répondre non?
Ben, un peu. Parce que clairement, pour moi, l'acte d'écrire, tu sais, m'amène à me poser toutes sortes de questions. Mais je vous l'ai dit, je me rappelle d'avoir écrit un premier roman où j'espérais terminer dans la psychologie du personnage. Pas capable. J'arrive à la fin du roman, puis tout d'un coup, je ressorte dans l'action, ça me prend la catharsis, il y a quelque chose, j'ai besoin de ça. Tu sais? Alors, est-ce que je veux dire qu'il y a peu d'émotions dans mes romans? Non, du tout, il y a beaucoup d'émotions. Mais ces émotions-là sont très détachées de moi.
Ouais.
Donc, il y a des choses horribles. J'ai écrit de l'horreur. Moi, j'ai écrit un slasher il y a quelques années où on est en train de tuer, de torturer. Ce genre de choses-là existe aussi dans mon écriture, mais je ne suis pas en train de m'investir émotionnellement là-dedans. Alors, j'y vais vraiment comme en plein détachement, puis en laissant justement, en pensant au lecteur qui, de son côté, va en faire ce qu'il ou elle veut. T'sais? Puis ça, pour moi, c'est fantastique parce que le roman ne m'appartient plus, il appartient à ceux qui le lisent. Et puis clairement, je fais exactement ce que tu fais, c'est-à-dire je pense à écrire quelque chose qui me ferait plaisir. Puis souvent, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est laisser au lecteur, pour moi en tout cas, de l'espace à inventer ce qu'il ressent. Alors, je lui dicte très rarement ce qui se produit. Je laisse réagir à un acte horrible, par exemple, puis se dire, est-ce qu'il trouve ça trippant ou il trouve ça horrible?
Ouais.
Mais ça lui appartient. Je ne me positionne pas sur ça.
Mais pardonne-moi une question qui est frontale et indiscrète. Ouais. Est-ce que ça signifie que tu es mal à l'aise avec tes propres émotions?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je crois pas. Moi, je suis plus âgé que toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'émotions dans lesquelles je suis prêt à aller. Mais est-ce que... l'acte d'écrire, pour moi, ne révèle pas nécessairement mes émotions à moi. Elle cherche à produire des émotions chez l'autre.
Oui, mais pour être capable d'aller dans telle émotion dramatique de l'autre, il faut connecter à cette même émotion chez soi.
Puis à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de zone dans lesquelles je ne me suis pas permis d'aller.
Okay.
C'est aussi bien la trahison que le fait de... l'abandon, je suis touché à ça, mais la crainte aussi de la douleur... J'ai touché à ça. Il y a plein de choses dans lesquelles je suis allé. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression de m'être mis de limite là-dessus.
Et si on parlait de voyage intérieur, mais ça peut aller au-delà de ça. Si je vous demande l'univers, le personnage ou le contexte le plus loin de vous que vous avez visité à travers l'écriture de fiction, qu'est-ce que c'est?
Moi, c'était un moine orthodoxe en Mont Athos. Donc, montagne sacrée en Grèce, interdite aux femmes, qui existe depuis 1000 ans. Donc, je me suis projetée dans ce personnage-là. Et,
est-ce que c'est amusant ou c'est très vertigineux?
J'ai beaucoup de plaisir. J'imaginais la vie des moines en Mont Athos et ça m'a presque donné le goût de fuir le monde et de devenir moine. J'ai compris, en fait, ce vœu de silence... où finalement, c'est dans la non-action que les choses s'accomplissent, ce qui est très différent de moi parce que je suis hyperactive. Je fais toujours 1000 choses en même temps. Et là, j'ai compris à travers ces personnages, c'est quoi le choix de vraiment se retirer du monde et d'agir en fait à travers les prières ou à travers un autre degré de conscience, une autre façon d'être dans le monde.
Donc, tu t'es éloigné de toi, puis pour bien comprendre et rendre ton personnage crédible, tu es allé fouiller un peu. Puis là, tu l'as mieux saisi les nuances. Ouais. Et Clara, est-ce qu'il y a des zones, personnages, univers, émotions très, très loin de toi? Qu'est-ce qui est le plus loin de ce que tu connais, que tu as visité?
Je pense qu'une des choses qui était le plus loin, c'est dans un court texte que j'avais écrit qui s'appelle « Verso me dit », c'était pour un recueil collectif. Puis, non, en fait, non. Excusez-moi, je vais changer de réponse. C'était un texte que j'ai écrit sur la marquise de Sade, c'est-à-dire que c'est un texte d'une auteure, une autrice qui s'appelle Rachilde, du 19e siècle en France, début 20e, tournant du siècle, et elle a inventé un personnage de femme sadique. Qui maltraite ses amants, puis qui... donc, on la suit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et moi, j'ai fait une sorte de réécriture de ce personnage-là pour essayer d'aller chercher ce qu'il y avait à la fois de cruel chez elle, mais aussi de plaisir à être maltraitée par un de ces personnages masculins-là. J'essayais de penser un peu le féminin chez ce personnage masculin-là. Et je pense que cette idée de femme sadique, c'est-à-dire que ce qui me fascinait chez elle, qui était très éloignée de moi, qui ne sait jamais assez me mettre en colère dans la vie, qui fait jamais de crise dans la vie, qui n'est pas assez sadique, certainement, mais dans l'écriture, c'est autre chose. Et ça me fascinait d'écrire un personnage féminin qui avait eu besoin de la violence pour se construire comme personne, comme femme, comme personne. C'est-à-dire que dans son milieu où elle était tellement empêchée comme femme de devenir une personne, il n'y avait qu'à travers une espèce de forme de cruauté et de violence
qu'elle pouvait s'épanouir,
qu'elle pouvait devenir quelqu'un, qu'elle pouvait vivre. Et puis donc ça me fascinait beaucoup, beaucoup de penser cette espèce de forme de cruauté.
Et j'ai envie de conclure avec une question qui est volontairement naïve et banale, mais je suis sûr que vos réponses vont être plus intéressantes que la question. Si je vous demandais de définir votre imagination avec un mot et de m'expliquer le choix de ce mot, qu'est-ce que ce serait? Elle est comment l'imagination de Clara?
Mais je vais essayer de ne pas répondre à la question, c'est-à-dire que je me rédis au mot définir. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de définir. Je vais citer Georges Didier Huberman dans un entretien il n'y a pas longtemps que j'ai écouté où il disait plutôt que de définir, j'aime infinir. Et je dirais que c'est peut-être la seule façon de te répondre, c'est-à-dire que je préfère infinir, c'est-à-dire ouvrir toujours d'autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma tête est faite de petites branchioles, de petites veines qui s'ouvrent toujours vers d'autres, de réseaux, de rhizomes. Et j'ai beaucoup de mal à fermer les tiroirs. J'ouvre des tiroirs.
Donc, ton imagination est indéfinissable et incontraignable.
C'est-à-dire que j'essaie, c'est-à-dire que c'est mon imagination. Après ça, il y a plein d'autres choses qui agissent contre elle.
Ouais.
Mais c'est comme ça que ma tête est faite, en tout cas. Comme ça que je pense.
Maya, si je te demandais de qualifier ton imagination.
On m'a jamais posé une question pareille. Deux mots me sont passés par la tête. Je dirais émanation.
Pourquoi?
Qu'est-ce qui émane, en fait, de mon imagination et, je dirais même, transcendance? Qu'est-ce qui me transcende, en fait, à partir de cette émanation et qui devient autre chose que juste ma petite personne de commun, de mortel? Qu'est-ce qui émane de, je ne sais pas, quelque chose qui va me survivre après, on espère?
Et le mot de la fin avec? Deux mots également.
Et si.
Et si.
C'est vraiment le c'est à travers, c'est souvent en me posant cette question du « et si » que j'invente les différentes histoires que j'ai envie de raconter. C'est la plupart du temps « et si le personnage, et si l'histoire ». C'est ce qu'on appelle en anglais le « what if ». C'est vraiment ça.
Mais j'avais raison de croire que vos réponses seraient intéressantes, même si ma question était banale. Donc, c'est tout pour la table ronde. Je vais simplement renommer vos noms et vos livres pour que les gens puissent aller vous voir dans le salon du livre ou ceux qui nous regardent à la maison, acheter vos livres, les louer, les découvrir. Alors, Maya Mbazik, le plus récent roman est dans les murs chez VLB Éditeur. Vic Verdier, on peut parler de Jack et le haricot magique à la collection des contes interdits. Et puis, Clara Dupuis-Morancy, CDX chez Héliotrope. Alors, à tous tous les trois. Je vous remercie pour cette discussion et bon Salon du livre merci. Avec des gens.
Merci.
Merci, Samuel.